Je vais faire une introduction à l'Apocalypse, donc d'autres sujets qui sont un peu autour, arrière-plan. Et la première chose à se souvenir, c'est que Dieu a promis de restaurer toutes choses avant qu'on arrive à la fin de toutes choses. Donc c'est sûr qu'il y a une fin de toutes choses, mais avant, Dieu va restaurer toutes choses. Dieu s'appelle l'Alpha et Oméga. Et quand il se présente comme ça, ça fait un peu comme un équilibre. Il y a une balance. Et Dieu est l'Alpha, Dieu est l'Oméga. Dieu a tout créé, Dieu va tout terminer. Le problème, c'est qu'entre les deux, il y a eu le règne du péché et du diable, qui a tout bouleversé. Et donc, si on n'a pas le côté Oméga, ça fait qu'il y a un déséquilibre cosmique quelque part. Il faut que Dieu règne sur sa création, comme on a chanté tout à l'heure, triomphe. Hein? Dieu va triompher, il va régner. Donc, il y en a qui ne croient pas au millénium. Mais ça laisse que, voilà, Dieu est Alpha. Mais il ne va pas être l'Oméga. C'est un déséquilibre. Donc, on va voir qu'à travers le schéma donné dans la Bible, il y a un équilibre. Dieu va régner sur sa création. Et donc, ce temps où Dieu va régner s'appelle, on va appeler, le temps de restauration de toutes choses. Et on peut voir ça, on va regarder dans Actes chapitre 1. Donc, la première question que les disciples ont demandé juste avant que Jésus est parti. Actes chapitre 1, verset 6. Parce que Jésus est venu pour présenter le royaume. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et au verset 6, Actes chapitre 1, verset 6, alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» C'était toujours la première chose dans leur pensée, qu'ils allaient régner avec Jésus. Qui est-ce qui va être le plus grand quand tu vas régner? C'était une des questions qui revenait dans son ministère. Et Jésus répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés à sa propre autorité. » Donc Jésus va pas révéler tout de suite la réponse à cette question-là. Quand est-ce que Dieu va restaurer Israël? Quand est-ce que Dieu va restaurer toutes choses? Ben, c'est pour plus tard. Ce n'est pas pour maintenant. Okay? On peut voir aussi dans Actes chapitre 3, verset 21. Actes chapitre 3, verset 21. On va commencer avec le verset 19. « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. » Donc Jésus-Christ n'est pas encore envoyé. Le temps de rafraîchissement, ce n'est pas encore arrivé. « Que le ciel doit recevoir, donc le Seigneur Jésus, jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. » Il y aura un temps de rétablissement de toutes choses. Et en attendant, Jésus est au ciel. Donc, le rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Donc, c'est dans l'Ancien Testament que Dieu doit rétablir toutes choses, qu'il y aura un temps de bonheur, de perfection, de santé, de prospérité, cette chose que nous appelons, nous, le millénium, le règne de Christ sur la terre. Et à la fin de l'Apocalypse, on va arriver là. Mais pour l'instant, on n'est pas encore là. Il y a aussi, on ne va pas tourner là, mais dans Romains chapitre 8, versets 20 à 22, il parle de ce même sujet. Romains chapitre 8, versets 20 à 22. Donc, on va tourner tout de suite au livre de Daniel. Donc, vous voyez sur le panneau là, Daniel chapitre 2. Okay? Donc, le plan prophétique depuis Daniel jusqu'au royaume de Christ et au-delà du royaume de Christ jusqu'à l'état éternel était prophétisé dans le songe que Nebuchadnezzar avait eu pendant qu'il était roi à Babylone. Et toutes les prophéties bibliques doivent correspondre à ce programme que nous voyons. Donc, j'ai illustré le songe de Nebuchadnezzar ici sur le tableau. Donc, on voit la tête d'or et Nebuchadnezzar. Il y a le corps des Mèdes et des Perses qui est en argent. Il y a le milieu, c'est les Grecs en airain. Et puis, on a les jambes qui sont en fer et les orteils, les pieds d'orteils qui sont les alliances finales, qui sont le fer mélangé avec l'argile. Et cette statue, cette image depuis Nebuchadnezzar jusqu'aux orteils, ça représente le cours de la civilisation. Donc, plus tard, à la fin du livre, il y aura le mystère de Babylone. Babylone est tombée, etc. Donc, il faut quand même penser à cette image plus tard. Qu'est-ce qu'il voulait dire par Babylone? Est-ce que c'est une seule chose ou c'est toute une accumulation d'informations à travers les siècles et les millénaires? Donc, dans la vision de Nebuchadnezzar, il y a une pierre qui se détache d'une montagne, qui se détache toute seule, sans l'aide d'aucun humain, qui va frapper les pieds, les orteils, qui va faire disparaître nulle trace n'en fut retrouvée de toute cette statue. Ça va disparaître. Et la pierre va devenir une montagne qui va remplir toute la terre et qui va être transportée à l'état éternel. Donc, depuis Nebuchadnezzar, donc à peu près 600 ans avant Jésus-Christ, jusqu'à l'état éternel, on a un résumé de tout ce qui est prophétique là. Okay? Donc, toute autre prophétie doit correspondre, parce que Dieu ne fait pas deux programmes de l'avenir. Il y a un seul programme, et tout est dans cette illustration dans Daniel chapitre 2. Plus tard, quand on arrive dans l'Évangile, dans Matthieu 24, Jésus va focaliser sur les sept années de la tribulation. Donc, c'est les sept années de cette dernière partie des orteils-là. Okay. Jésus va focaliser sur cela dans Matthieu 24. Et dans Matthieu 24, verset 15, Jésus va invoquer le livre de Daniel. Parce que tout correspond. Hein, il n'y a pas de contradiction. Donc, on va voir dans Matthieu chapitre 24. Je ne vais pas prendre le temps pour élaborer sur la question de Matthieu. Ni vraiment de Daniel ce matin parce que le temps passe trop vite autrement. Matthieu 24 et verset 15. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, etc. Il fait appel à Daniel. Et donc nous, puisqu'on veut faire attention, il dit, fais attention quand vous lisez ça. On va revoir donc dans Daniel. Daniel, donc chapitre 9 et verset 27. Daniel, chapitre 9 et verset 27. Donc, je ressorte seulement le verset. Hein. Il fera, donc il, c'est l'Antichrist. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Aussi dans Daniel chapitre 11, verset 31. Donc, ce sont les versets sur lesquels Jésus avait son propre phrase. L'abomination de la désolation, ça vient de ces trois versets que je suis en train de vous lire. Donc, chapitre 11 et verset 31. Des troupes se présenteront, excusez-moi, dans mon endroit, sur son ordre,
profaneront le sanctuaire, la forteresse, et feront cesser le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination du dévastateur. Et puis dans chapitre 12 et verset 11, nous lisons « Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. » Donc, Jésus et Daniel, dans ces versets, parlent de cette... En fait, c'est les derniers 3 ans et demi de la tribulation de 7 ans. Donc, l'Antichrist établira un accord avec Israël de 7 ans. Et au milieu, donc 3 ans et demi après, il va rompre son alliance et il va faire tomber toutes ces misères horribles sur le peuple d'Israël. Et donc, Jésus a dit, il ne faut pas tarder, il ne faut pas retourner, il ne faut pas chercher quoi que ce soit, il faut partir et fuir dans les forêts, dans le désert, dans tout ce qu'il faut faire pour être protégé contre cet antichrist. Donc, pour notre étude aujourd'hui, nous allons focaliser sur la chronologie. La chronologie est ici, sur ce tableau, la chronologie dans l'Apocalypse. Premièrement, il y a l'introduction dans chapitre 1. Après, chapitre 2 et 3, c'est les églises de l'époque, mais ce sont des troubles que les églises, à travers tous les siècles, vont retrouver. Chapitre 4 et 5, c'est le trône de Dieu et le livre que seul Jésus-Christ a le droit à ouvrir, le rouleau, à 7 sceaux. Chapitre 6, c'est l'aperçu de la tribulation, les 7 années dans un grand survol. À la fin du chapitre 6, Jésus arrive, c'est le point capital, Dieu va régner sur la terre. Après, donc, on saute jusqu'au chapitre 19, où Jésus arrive. Il arrive afin de régner sur la terre. Chapitre 20, il y aura le temps que Jésus va régner sur la terre et il y aura le jugement final des pécheurs. Et puis chapitre 21-22, il y a l'état final, l'éternité, la nouvelle Jérusalem, dans toute sa gloire. Okay? Donc ça, c'est le schéma chronologique. Après, comme nous avons vu autrefois, il y a cet principe dans les Écritures où on va introduire un sujet et puis on va revenir voir ce même sujet en détail. Et peut-être encore il y a un point dans cela où on voudrait encore donner plus de détails, donc on va revenir et donner plus de détails. C'est comme des parenthèses, si vous voulez. Et on a vu ça dans le Genèse, chapitre 1, 2 et 3, où il y a, ça semble, si une personne veut confondre, qu'il y a 3 récits de la création. Mais ce n'est pas 3 récits différents. Il y a un récit global, il y a un récit qui concerne certains détails, et puis il y a un récit qui concerne l'humanité. Donc, grand détail, grand global explication de la création, plus les détails en parenthèse, plus les détails en parenthèse. Et on revient ici dans l'Apocalypse de faire la même chose. C'est un peu comme la dernière parenthèse, c'est quand l'ange va dire à Jean, il dit, tiens, viens, je vais te montrer ce qui va arriver à l'Antichrist. Tiens, je vais te montrer ce qui va arriver à Babylone. Donc, voilà, une parenthèse, une autre parenthèse. Ce n'est pas des questions dans la chronologie de son récit, mais c'est les détails supplémentaires. Important, mais on va mettre ça l'après-midi, les détails. Et on va voir la globalité de la chronologie en premier. J'insiste que notre interprétation sera littérale, c'est-à-dire Dieu a écrit quelque chose pour qu'on le lise et qu'on comprend. Donc on a une interprétation littérale qui est à la fois historique et grammaticale. Donc une illustration est une illustration. Une parabole est une parabole.
Donc, s'il dit semblable à une montagne, ça ne veut pas dire que c'est une montagne, mais c'est quelque chose semblable, littéralement semblable, une illustration semblable à une montagne. Donc, j'ai déjà expliqué la question des parenthèses. Et c'est très important dans l'interprétation de l'Apocalypse de voir qu'il y a des parenthèses. Autrement, on est un peu perdu. C'est pour ça qu'on va voir la chronologie. Comme ça, on voit ce qui se passe une chose après l'autre. Et on va revenir remplir les détails. Et l'autre principe, c'est que Jésus va revenir. C'est le point capital. Il faut que toutes les choses dans l'Apocalypse se règlent sur cette question-là. Il se règle sur le retour de Jésus. Si on prend ça comme le point de référence, ça nous aide à déchiffrer toutes les autres choses. Alors, il fallait aussi que je vous dise que je vous donne là une interprétation, une présentation de l'Apocalypse. Il y a certainement plein d'autres présentations, OK? Donc, je ne prétends pas avoir toutes les réponses, mais c'est une façon pour comprendre et rendre utile ce livre.